8h.
Les adolescents sont quasiment aussi porteurs du virus et avoir des adolescents, ça augmente le risque pour vous d'attraper le Covid.
Faut-il vacciner aussi les ados? Et si oui, à quel moment faudra-t-il élargir la campagne vaccinale? La Haute Autorité de Santé et le Conseil de Défense se penchent sur la question. Au-delà des 12-15 ans, l'enjeu est bien l'immunité globale de la population. 3 milliards d'arbres en France et pourtant, nous importons du bois venant d'Autriche et d'Allemagne. En pleine relance économique, il y a urgence à s'équiper d'usines de pointe dans cette filière d'avenir. C'est le dossier Europe 1 dans ce journal. Et puis, les Bleus et leur attaque de feu sont-ils la meilleure équipe pour l'Euro de football? Attention au syndrome du favori. Prévient Franck Leboeuf sur Europe 1, qui rappelle le naufrage de la Coupe du Monde de 2002. 8h15, l'interview de Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. À 18 jours des régionales, le Parti Socialiste est-il en voie d'effacement ou déjà effacé? On posera la question au maire socialiste de Dijon et ancien ministre François Rebsamen. Rendez-vous 8h15.
On vous retrouve juste après ce journal. Très bon réveil à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h, c'est le journal de François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour. Ce ne sont pas eux que l'on retrouve dans les services d'urgence. Et pourtant, dans certains pays, États-Unis, Canada, les adolescents ont commencé à être vaccinés contre le Covid. L'Allemagne va s'y mettre lundi prochain. Quant à la France, elle attend un avis aujourd'hui de la Haute Autorité de Santé, l'agence européenne ayant déjà donné un feu vert.
Bonjour Victor Delande.
Bonjour.
Spécialiste santé d'Europe 1. De nombreux médecins poussent en effet pour la vaccination des collégiens et lycéens.
Oui, ces experts s'appuient sur une étude menée par le laboratoire Pfizer qui démontre une efficacité vaccinale de 100% chez les patients de 12 à 15 ans. Pour le pédiatre Robert Cohen, la vaccination des ados répond à deux objectifs, leur protection et surtout celle de leur entourage.
Les adolescents sont quasiment aussi porteurs que les jeunes adultes du virus et il y a plusieurs études, dont certaines de l'Institut Pasteur, qui montrent que avoir des adolescents, ça augmente le risque pour vous d'attraper le Covid. Donc on a à la fois pour eux un intérêt individuel et un intérêt collectif pour le reste de la société.
Autrement dit, vacciner les ados limiterait encore un peu plus la circulation du virus. Emmanuel Baron, directeur d'Épicentre, le groupe de recherche et d'épidémiologie de Médecins Sans Frontières, n'est pas opposé à cette vaccination, mais ce n'est pas l'urgence. Il faut avant tout vacciner les personnes fragiles dans le monde entier, selon lui, pour ne pas voir apparaître de nouveaux variants.
Attention, l'exemple de l'Inde doit nous encourager à être extrêmement prudents et à savoir aussi équilibrer un peu les choses en matière de délivrance de vaccins.
Le sujet est loin de faire l'unanimité dans la communauté scientifique. Certains experts réclament même un débat public pour bien peser le pour et le contre de la vaccination des adolescents.
Victor Delande pour Europe 1, l'autre actualité de la santé. C'est ce message, en apparence tout simple.
Enceinte, les médicaments... C'est pas n'importe comment.
Voilà le slogan largement diffusé à partir d'aujourd'hui par l'Agence nationale de sécurité du médicament qui s'appuie sur des chiffres. On les entendait dans le journal de 7h. 7 femmes sur 10 se disent informées des risques de l'alcool ou de la cigarette pendant la grossesse, mais seulement 3 sur 10 le sont pour ce qui est de la prise de médicaments. Or, le risque de malformation ou de troubles du développement est important. 1000 bébés sont touchés chaque année en France.
8h03 sur Europe 1. Emmanuel Macron avait promis de reprendre son bâton de pèlerin. Il entame aujourd'hui une sorte de Tour de France.
Oui, en pleine campagne officielle pour les régionales, tandis que ses ministres sont soumis à une période de réserve, le président a tout droit de s'exprimer. Il sera cet après-midi et demain dans le Lot, Saint-Cirq-la-Popie, l'un des plus beaux villages de France. Comme le disait Nicolas Bétou dans son édito politique, le président s'attaque à séduire une autre France moins mondialisée et plus populaire. Jean Castex, lui, emmène 6 ministres en Tunisie pour parler notamment numérique et développement économique.
Bonjour Louis Dragnel.
Bonjour.
Chef adjoint du service politique d'Europe 1, Gérald Darmanin est aussi du voyage pour les questions de sécurité et d'immigration.
Oui, en fait, la priorité du ministre de l'Intérieur, c'est d'aborder les questions migratoires. Car la Tunisie est devenue un pays de transit, le premier pays de départ des migrants qui arrivent en Italie, avant très souvent de chercher à rejoindre la France. Au lendemain de l'attaque contre la basilique de Nice, en novembre dernier, Gérald Darmanin était déjà venu avec une liste de 21 noms, 21 personnes radicalisées en situation irrégulière que la France n'arrivait pas à expulser en raison du manque de coopération de la Tunisie. Eh bien, depuis ce voyage, tous ont été expulsés. Le ministre de l'Intérieur a l'intention de saluer ces efforts qui ont aussi permis de démanteler 21 filières d'immigration clandestine. Alors que la France s'est engagée à donner 10 millions d'euros à la Tunisie pour améliorer la protection de ses frontières, un des objectifs politiques de cette visite est donc pour le gouvernement français d'afficher qu'il est capable d'efficacité sur les questions migratoires. le talon d'Achille d'Emmanuel Macron.
Louis de Raguenel pour Europe 1. L'heure des réquisitions aujourd'hui au procès en appel de Bernard Tapie pour escroquerie. L'homme d'affaires est absent du tribunal en raison de sa santé. Hier, l'État a réclamé 595 millions d'euros de réparation après l'arbitrage qui avait accordé 400 millions d'euros à Bernard Tapie en 2008 dans le dossier de la revente d'Adidas.
Au moment où la France se remet économiquement de la crise sanitaire, on a déjà parlé ici de la pénurie de matériaux de construction.
Pour l'un d'entre eux, le paradoxe est total. Le bois, censé être intégré dans toutes les nouvelles constructions dès l'an prochain, une mesure du Grenelle de l'environnement pour baisser les émissions de CO2. Mais la pandémie a désorganisé les filières d'approvisionnement. La relance, qui se veut écologique, le bois pourrait faire partie de la solution, mais la France ne semble donc pas prête.
Maud Descamps, bonjour.
Bonjour.
En 2020, une maison sur 10 a été construite avec du bois qui n'est pas français.
En effet, ce qui est surprenant quand on sait que 30% du territoire est recouvert de forêts. Il y a 3 milliards d'arbres en France, mais il nous manque une chose essentielle, l'outil industriel pour transformer le bois de forêt en bois de construction. C'est ce que m'a expliqué Nicolas Douzin-Didier de la Fédération nationale du bois.
Le monde de la construction demande des produits de plus en plus techniques. La majorité vient aujourd'hui d'Allemagne et d'Autriche. Et donc c'est cette bascule qu'on veut opérer pour avoir une meilleure représentativité du bois de France transformé dans les usines françaises. Et c'est ces usines qui ont été montées en Allemagne, en Autriche, qu'on doit maintenant dupliquer sur le territoire national. Donc on va vraiment changer d'échelle en matière de production nationale.
Et il faut donc développer des usines un peu partout en France.
Alors il y a déjà une de ces usines dans notre pays, une usine pionnière, high-tech, que notre correspondant dans l'Ouest, Charles Guyard, a pu visiter.
Là on va où là ? Dans l'atelier.
Bouchon d'oreille de rigueur, on entre ici dans un immense hangar inauguré en 2018. C'est là que travaille Baptiste Vauvard.
Nous, notre métier ici, c'est de transformer des planches de bois en un matériau de construction qui va être utilisé soit en plancher, soit en mur.
Il est loin. Le temps des scieries d'où sortaient de simples planches. Aujourd'hui, la filière est entrée dans l'ère du CLT, soit des panneaux de bois à la solidité aux dimensions telles que le bâtiment, contraint par de nouvelles normes environnementales, les utilise pour construire maisons et immeubles. En investissant très tôt dans des équipements dernier cri, Piveteaubois a donc bien anticipé cette tendance, captant un tiers du marché hexagonal avec 25 000 m3 produits par an. Le reste, c'est principalement de l'importation, car les autres acteurs du secteur en France sont encore à la traîne et il faut du temps pour maîtriser l'outil et la technique. Jean Piveteau, président du groupe Vendéen.
C'est vrai que les autres sont en retard. C'est quelque chose qui peut se rattraper. Maintenant, il y a des délais d'installation des usines qui peuvent prendre 3 ans. Ensuite, il y a tout un métier à apprendre pour se lancer dans la production de produits d'engineering.
Et fort de sa réussite, Piveteaubois réfléchit désormais à doter d'un département CLT sa scierie de Corrèze, rachetée en 2004.
Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que des usines comme celle-ci, il en faudrait 15 pour ne plus devoir importer du bois à nos voisins.
Maud Descamps, ce qui se joue ici, c'est la capacité de la France à doter son industrie d'un nouveau fleuron.
Oui, on a bien vu que sur le papier, nous avions tous les ingrédients. Maintenant, il faut que la production suive. C'est une vraie préoccupation pour les gros constructeurs comme Vinci, Eiffage ou encore Bouygues. Ça l'est aussi pour Bercy qui soutient les implantations d'unités de transformation du bois et les relocalisations via le plan de relance. Et puis sachez que dans l'entourage de la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, on le dit clairement, si on loupe le coche, ce sera au profit de nos voisins européens.
Le dossier d'Europe 1 signé ce matin. Maud Descamps et Charles Guyard, merci beaucoup.
8h09 sur Europe 1. Les théâtres ont rouvert depuis 2 semaines et aujourd'hui, c'est la troupe de la Comédie Française qui retrouve son public.
L'occasion ce matin d'entendre un fan absolu de théâtre, lui-même devenu comédien, un certain Franck Leboeuf, l'ancien footballeur qui était l'invité inattendu de Sébastien Krebs ce matin à 6h20 et que nous avons aussi voulu entendre forcément sur l'actuelle équipe de France. Il paraît que tous les pays nous envient notre trio d'attaquants, pour reprendre le titre du journal L'Équipe ce matin, Mbappé, Benzema, Griezmann. Vous allez voir que Franck Leboeuf est nettement plus prudent.
Il faut toujours être respectueux des adversaires, mais c'est vrai que la meilleure équipe de France est la meilleure équipe du monde. Je travaille pour une chaîne américaine et les gens me disent « mais c'est pas fair », comme ils disent, « c'est pas équitable, c'est trop fort l'équipe de France, comment on va faire pour se battre ?» C'est vrai, mais n'oublions pas qu'en 2002, j'en faisais partie de cette Coupe du Monde horrible en 2002, on avait les 3 meilleurs avant-centres de tous les meilleurs championnats européens, italiens, anglais et français, avec Cissé, Henri et Trezeguet. Et on n'a pas mis un but. Donc il faut faire gaffe quand même.
Attention, à l'excès de confiance, prévient Franck Leboeuf ce matin sur Europe 1. Donc ce premier match de préparation à l'Euro, 21h05, France-Pays de Galles, en direct sur Europe 1.
Les bons chiffres du cinéma, 3 400 000 entrées dans les salles françaises en moins de 2 semaines.
Et aujourd'hui sort Billie Holiday, une affaire d'État. Mathieu Charrier va nous présenter ce film historique qui revient sur la guerre menée par l'État américain contre la chanteuse pour l'empêcher d'interpréter son titre « Strange Fruit ».
Southern trees bear strange fruit.
Ces fruits étranges que portent les arbres du Sud, ce sont en fait les cordes noires pendues lors de nectiparties dans le sud des États-Unis dans les années 40. Les blancs, eux, y assistaient, bien habillés, assis sur des chaises alignées, comme l'on profite d'un spectacle. Alors quand Billie Holiday entonne ce chant, composé et offert par un blanc à Belle Méropole, le gouvernement américain la regarde d'un très mauvais œil et le chef du Bureau fédéral des narcotiques va avoir une idée. Billie Holiday se drogue, c'est de notoriété publique pour fuir un quotidien à une enfance terrible. Alors il va infiltrer l'un de ses enquêteurs auprès d'elle, Jimmy Fletcher. C'est la dimension polar de ce biopic qui du reste offre un angle parfait pour découvrir cette chanteuse engagée politiquement. Qu'est-ce qui fonde justement cet engagement qu'elle aura chevillé au corps jusque sur son lit de mort ? L'une des scènes du film est d'ailleurs terrifiante. Billie Holiday est admirablement jouée par la chanteuse Andrade, sacrée aux Golden Globes et nommée aux Oscars.
Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind.
On n'ose pas interrompre cette chanson Strange Fruit, chanson triste, délicate, envoûtante. Le film, lui, s'appelle Billie Holiday, une affaire d'État.
Merci François Geffrier. C'était le journal de 8h sur Europe 1 qui termine en musique avec Billie Holiday. Très bon réveil à toutes et à tous. Il est 8h12 et dans un instant, l'interview politique de la matinale. Sonia Mabrouk reçoit François Rebsamen, le maire de Dijon, ancien ministre du Travail. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h15 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité, le maire de Dijon depuis sa ville ce matin, l'ancien ministre socialiste François Rebsamen.
Bienvenue à vous et bonjour François Rebsamen.
Bonjour Sonia Mabrouk.
De quoi est mort le Parti Socialiste ?
Il n'est pas encore mort, il est en voie de disparition parce qu'il ne travaille pas assez. Mais il n'est pas le seul, c'est aussi le cas de nombreux partis. Il y a des effets de la suite de l'élection d'Emmanuel Macron qui font sentir leurs effets, plus le scrutin majoritaire. Et donc c'est pour cela d'ailleurs que j'ai défendu avec d'autres le scrutin proportionnel. Mais non, il n'est pas mort encore.
Il n'est pas mort,
simplement, il est représenté par des personnalités au niveau local surtout, et pas au niveau national, c'est vrai.
On va en parler au niveau local, bien sûr, François Rebsamen, mais s'il n'est pas mort, alors où est le projet, où est le programme, où est la vision pour la France en vue de 2022 ?
Ben c'est bien ce que je disais. Ce qui manque, c'est le niveau national. Nous avons au niveau local, au niveau régional, des candidats qui sont de bons candidats, qui représentent un espoir pour des territoires. Ça, c'est vrai. Et il manque ce projet national. Vous voyez, le Parti Socialiste n'a même pas été capable d'élaborer 4 ou 5 vraies propositions pour l'ensemble de nos candidats sur l'ensemble du territoire. Donc chacun fait avec son propre... comment dire, son propre parcours. Et pour cela, c'est plutôt bien au niveau régional, local.
Très bien, mais au niveau national, c'est quand même important pour un parti qui était quand même un parti et d'opposition et même de gouvernement. Donc, à qui incombe la faute ? Qui participe à cet effacement du parti ? Est-ce que l'actuelle direction du parti, avec Olivier Faure, en est responsable ?
Oh, ils ne sont pas les seuls, mais il y a une lourde responsabilité de la direction. Vous savez, les militants n'ont pas travaillé, ils n'ont reçu aucun texte, ils n'ont pas débattu pendant 3 ans. C'est exactement le contraire de notre histoire. C'est-à-dire, notre histoire, elle est faite de débats internes, de démocratie interne, de textes qu'on envoie aux militants qui tranchent. Tout ça fait un programme à la fin, et là, nous n'avons rien, c'est vrai.
Mais je vous sens, François Rebsamen, ce matin, à la fois réaliste, mais un peu abattu quand même sur l'état du parti, de ce qui est fait, non ?
Ah non, je suis très combatif. Oui, il faut être très combatif. Je suis très combatif. Bien sûr, il y a encore de l'espoir. Vous connaissez les formules, rien n'est joué, on est à 1 an de l'élection présidentielle,
oui,
etc.
Je connais les éléments de langage.
Pour le moment, oui, bien sûr. Moi, pour le moment, je suis dans le combat. Je suis dans le combat régional, je suis dans le combat départemental pour soutenir nos candidats partout. Et ce sont des bons candidats, donc j'ai bon espoir, malgré souvent la menace Front National qui est là et qui pointe.
On va en parler, mais une candidature unique à gauche en vue de 2022, vous n'y croyez pas, François Rebsamen, elle est impossible.
Je ne pense pas que ça puisse se faire comme cela. C'est ce que je dis depuis longtemps à la direction et à Olivier Faure. Je pense qu'il faut d'abord confronter les programmes et savoir ce sur quoi on peut s'entendre ou pas. Et donc, tant qu'il n'y aura pas cette confrontation démocratique, logique, de débat, vous savez, dans le temps, quand il y a eu l'union de la gauche, il a fallu des heures et des heures et des heures de discussion pour arriver à rassembler la gauche, ce qu'a fait François Mitterrand. Et là, aujourd'hui, évidemment, il faudrait avoir des heures de discussion, non pas des photos. Les photos, c'est bien, mais ça n'apporte pas grand-chose. Il ne suffit pas de crier « union, union » pour que ça se fasse. En réalité, il faut confronter les programmes. Est-ce que nous avons les mêmes idées sur la manière dont on va vers la transition écologique? À quelle vitesse on y va? Avec quelles propositions? Comment agir ensemble ou pas? Et c'est cela qui fera le rassemblement
mais
nécessaire.
Oui,
nécessaire.
François Rapsamen, si le Parti Socialiste n'a pas de candidat socialiste en, tant que, en vue de 2022, est-ce que pour vous, cela actera de la disparition du PS est déjà bien entamé.
Je reprends sur votre dernière proposition, enfin votre dernière conclusion, mais je voudrais dire, il n'est pas acté qu'il n'y ait pas de candidat du Parti Socialiste.
Vous y croyez encore, vraiment?
Mais bien sûr. Il y aura à la rentrée un nouveau débat, il y aura... C'est pas possible. L'élection présidentielle, c'est pas envisageable qu'il n'y ait pas un candidat socialiste à cette élection.
Pourtant, vous savez qu'Olivier Faure envisage l'effacement derrière probablement un écologiste.
Oui, il envisage ça, mais nous ne l'envisageons pas, donc on aura l'occasion
d'en
discuter.
Oui, mais c'est lui qui est à la tête du parti quand même.
C'est vrai. Mais je ne désespère pas de convaincre mes camarades qu'on ne peut pas aller comme cela à un rassemblement fictif sans débattre du fond d'abord.
En tous les cas, lui, et je parle d'Emmanuel Macron, est déjà parti. Il entame un Tour de France aujourd'hui, François Rapsamen, dans le village de Saint-Cyr-la-Popie. Est-ce que, selon vous, c'est un président au contact du pays ou alors c'est une campagne qui ne dit pas son nom?
Il est déjà en campagne, c'est évident. Il a enjambé les élections locales, parce que le parti En Marche n'existe pas en réalité, et donc il n'existe que par la présence du président de la République, on le voit bien.
C'est savoureux de votre part, alors que vous venez quasiment d'acter la disparition du PS, de dire que la majorité n'existe pas, le parti n'existe pas.
Non, je dis le parti, mais les partis aujourd'hui, Madame Mabrouk, vous le savez, les partis politiques sont en voie d'éclatement, parce qu'ils n'ont pas travaillé, ils n'ont pas de proposition, ni les uns ni les autres. Et donc c'est un phénomène beaucoup plus général, puisqu'il suffit d'avoir la présidence de la République pour avoir derrière une majorité à l'Assemblée nationale. C'est une réflexion qu'on doit avoir sur nos propres institutions. C'est celle que j'ai portée d'ailleurs avec François Bayrou. Et donc tous les partis sont frappés du même mal, j'allais dire. L'absence de réflexion, de travail, de programme. Mais il faut dire que c'est pas les partis aujourd'hui qui font les programmes, c'est le président ou les candidats à la présidence. Donc c'est ça le problème dans notre pays.
Et bien justement, s'il y a un duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, parlons des incarnations. Vous voterez, avez-vous dit, sans aucune hésitation, Emmanuel Macron. Mais tout le monde n'est pas si clair à gauche, François Rapsamen. Jean-Luc Mélenchon maintient qu'il ne donnera pas de consignes. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que c'est une erreur, je l'ai dit à Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'il ne faut pas tergiverser. C'est inenvisageable que le Front National, je continue de l'appeler le Front National, vous le savez, parce que ça n'a rien d'un rassemblement. Donc c'est un front en réalité anti-républicain.
Anti-républicain? Vous dites anti-républicain, oui. Ça veut dire en dehors de la République?
Oui, bien sûr, il y a des mouvements factieux derrière le Front National.
Mais alors pourquoi il n'est pas interdit, monsieur le maire?
C'était une bonne question. Ça a été une question qui s'est posée. À partir du moment où il n'est pas interdit, il est dans le jeu démocratique. Mais j'ai le droit de dire qu'il a derrière lui des mouvements factieux et qui ont toujours existé, qui sont ceux de l'extrême droite. C'est ça, le Front National, en réalité, derrière. C'est un danger pour la République.
Bien sûr,
c'est
vous avez le droit de le dire.
National.
François Rapsamen, on a envie aussi de comprendre quel est l'impact de vos arguments, parce que pendant des années, ils continuent à prospérer. Est-ce que vous n'avez pas aussi collectivement, vous-même, les socialistes, une responsabilité avec la montée du RN?
Mais bien sûr, on a tous une responsabilité. L'incapacité, j'allais dire, à prendre en compte les aspirations les plus populaires, les difficultés de vie dans un certain nombre de quartiers. C'est tout cela la difficulté aujourd'hui. C'est une société morcelée où l'individualisme a progressé. Et donc, derrière cela, il y a ceux qui, par la démagogie, c'est toujours plus facile, arrivent à convaincre des habitants, des électeurs, de nos concitoyens.
Oui, mais vous croyez qu'il suffit de dire qu'il est anti-républicain? Ce sont des arguments des années 80-90 pour contrer le Front National aujourd'hui?
Non, ça suffit pas. Localement, je le dis, régionalement aussi. Par exemple, dans notre région, le Front National va sûrement faire un beau score au premier tour de l'élection régionale. tout doit être fait, tout doit être fait. Vous savez, je pense à ce qui pourrait être détruit par le Front National s'il prenait la présidence d'une région, s'il dirigeait une région. Je l'ai dit aux amis qui sont du monde de la culture. Le monde de la culture, nous n'en parlons pas assez.
Mais soyons c'est précis, un François Rapsavet, par exemple.
Vous me demandez des arguments.
Oui, mais par exemple, dans le monde de la culture, les entreprises. Dans les mairies, le Rassemblement National a déjà pris des mairies. Qu'est-ce qu'il y a eu comme destruction précise?
Oui, mais dans les mairies, on ne peut pas détruire ou détricoter suffisamment. Il faut des compétences plus larges. Mmh. Bien sûr, il faut des compétences plus larges. Mais dans les mairies, vous l'avez vu à un moment, le Front National, il s'attaque d'abord à la culture. Les aides pour l'art contemporain, tout ce qui touche la jeunesse, tout ça disparaît, enfin, n'est pas soutenu. Et donc, c'est cela le danger aujourd'hui dans nos villes, dans nos départements
mais
et dans
vous
nos
vous
régions. Et au niveau national, encore plus.
Mais vous croyez encore à l'utilité ou à l'efficacité du Front républicain ou à l'arc républicain, comme vous l'appelez, pour ne pas qu'une région tombe entre les mains du RN ?
Bien sûr. Je pense que tout doit être fait pour éviter que le Front National s'empare d'une seule région. Vous imaginez, pour les habitants d'une région, ce que cela signifierait d'être dans une région dirigée par le FN, au niveau national, mais aussi au niveau international, pour ceux qui attendent, les touristes étrangers, pour ceux qui veulent revivre normalement, avoir une direction de région, alors du pays a fortiori, mais de région, avec des élus Front National qui s'entre-déchirent entre eux. Je ne l'imagine
pas.
Monsieur
Rebsamen, tout doit être fait, mais les élections vont se jouer en grande partie aussi sur les thèmes sécuritaires, alors que des attaques, des agressions rythment quotidiennement l'actualité, y compris dans votre région, avec l'agression d'un élu récemment en Côte d'Or. Qu'est-ce que vous proposez de différent du Rassemblement National ?
Tout, parce que il faut expliquer les choses. Ben oui, ben vous savez, dans le domaine de la sécurité, il faut d'abord commencer par la prévention. J'entends jamais parler de la part du Front National. Ensuite, il faut effectivement qu'il y ait de la dissuasion. La dissuasion, c'est la présence policière. Et là, la droite est malvenue d'en parler. Effectivement, la droite ou la droite extrême est malvenue d'en parler parce que sous Nicolas Sarkozy, c'est 13 000 postes de policiers et gendarmes qui ont été supprimés. Et puis après la dissuasion,
vous avez dit droite extrême.
Oui, j'ai un candidat de la droite extrême dans ma région. Le maire de Chalon-sur-Saône est un candidat de la droite extrême et il y a l'extrême droite, voyez-vous.
Mais c'est peut-être
des préparations de fusion pour après l'élection nationale.
C'est vous qui délivrez les brevets de républicanisme à chaque candidat ?
Non, mais je dis ce que je pense. Ça, c'est la force d'un homme libre. Mm-hmm. Moi, je suis un homme de gauche. Je suis un social-démocrate, écologique, engagé. Et donc, je dis ce que je pense, mais je respecte la démocratie.
Mais vous-même à Dijon,
je suis en procès avec le maire de Chalon-sur-Saône. Il a dit que je dirigeais la ville avec les mollas. Vous imaginez un peu le niveau.
Bah, vous-même et à Dijon,
il a été condamné et il refuse d'avoir dans les cantines de donner des places séparées à les enfants. Voilà, c'est ça la droite extrême. C'est celle qui prépare à l'italienne le rassemblement entre une partie de cette droite, des membres de LR comme Pelletier. Voilà, il y a une proximité idéologique, tout le monde le voit bien avec l'extrême droite.
Et les réponses sur le terrain, monsieur le maire, vous-même à Dijon, vous avez fait face il y a un an à la violence entre communautés avec des Tchétchènes et des jeunes de quartier. Il y a aussi plus largement des phénomènes de bandes, des trafics de stupéfiants, une ultra-violence gratuite. Est-ce que la gauche est toujours biberonnée à la naïveté sur ces sujets ?
Moi, je passe pour insécuritaire, Madame Mabrouk, vous le savez bien, dans ce sens que ça fait longtemps que je considère...
Ça dépend par qui, monsieur le maire ? Par qui êtes-vous comme insécuritaire ?
Je pense par beaucoup. Ah oui, non, dans mon propre parti, par quelqu'un qui considère que ce sont les personnes les plus fragiles, dans les milieux les plus populaires, qu'on subit le plus cette violence, ces voitures brûlées, etc. Mais je ne veux pas m'étendre sur ce sujet aujourd'hui, parce que ça, à chaque fois, ça fait le lit du Front National. Donc je préfère combattre les idées du Front National, dire que
oui, mais qui est
ces
crédible
idées de nationalisme,
monsieur le maire,
de repli...
Qui est crédible et légitime à gauche sur ce sujet régalien d'importance quand même ? Est-ce que vous êtes capable de donner des noms en vue de 2022 aujourd'hui ?
Ah, mais je suis pas là avec vous en interview pour donner des noms, mais il y a bien sûr beaucoup de personnes à gauche qui portent et qui pensent les mêmes choses que moi. Et donc on saura faire, Madame Mabrouk, à la rentrée.
Vraiment, vous le croyez, Monsieur le Maire, vu vos différences d'ailleurs, on pourrait vous poser la question. Quel point commun encore vous avez avec le premier secrétaire du Parti socialiste aujourd'hui ?
Moi, je pense une certaine idée de l'Europe, de la social-démocratie. Je ne suis pas du tout d'accord sur la stratégie, mais cela, à nous d'en débattre et de trancher ce problème.
Mais les débats risquent d'être animés, en tous les cas. Merci François Rebsamen.
Oui, ils peuvent l'être. C'est bien d'ailleurs pour la démocratie, à condition qu'il y en ait.
Bien sûr, merci d'avoir répondu à nos questions depuis votre ville, Dijon. Et je remercie également Christophe Guissignani d'avoir permis ce duplex, évidemment. Bonne journée à vous, ainsi qu'à nos auditeurs, bien sûr.
8h28.
Merci Madame Mabrouk.
Merci Sonia Mabrouk, merci Monsieur le Maire. 8h28 sur Europe 1. À suivre l'info, Marion Calais et le journal de Roland Garros avec Corinne Boulou. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h31 sur Europe 1, un nouveau point sur l'info avec Marion Calais.
Un déplacement sur deux jours dans le Lot. Emmanuel Macron attendu notamment à Saint-Cyr-la-Popie. Première étape d'un Tour de France du chef de l'État pour renouer un dialogue direct avec les Français. Avant cela, ce matin, Conseil de défense avec notamment sur la table la question de la vaccination des plus jeunes avant l'avis de la Haute Autorité de Santé demain. Il transporte plus de 300 tonnes de carburant, fuel et gasoil, 25 tonnes d'acide nitrique et a déjà répandu des tonnes de billes de plastique dans l'océan Indien. Le navire en perdition après un incendie au large du Sri Lanka risque désormais de sombrer. C'est ce qu'indique ce matin la société néerlandaise chargée de son remorquage. Les Bleus du foot se testent ce soir avant l'Euro. Les joueurs de Didier Deschamps face au Pays de Galles en match de préparation. Coup d'envoi 21h05. Match à suivre en direct sur Europe 1.
À suivre en direct, en intégralité, toute la soirée. C'est parti, on est à 9 jours de l'Euro et cette campagne démarre avec donc France-Pays de Galles. Merci Marion Calais, c'était le rappel de l'info. Il est 8h32. Laurent Cabrol nous rejoint, c'est l'heure de la météo.
Et les orages arrivent, ils arrivent en trombe à travers la France, mais pour l'instant, ils ne touchent que... Ce sont des petites pluies pour l'instant, pour la Méditerranée et pour l'océan Atlantique, elles sont en bordure et progressivement, dans ces parties-là...
Je peux vous couper la parole, oui. Laurent, je me permets. Hein. Corinne Boulou est déjà en studio, il y a le journal de Roland Garros à suivre. Et quand on traite de Roland Garros, voilà. La météo, elle vous
je
suit avec
non,
une attention...
Pas une mauvaise météo, Laurent.
Une attention matin, presque gourmande.
Je vais dire ce matin, jouer à mort. Jouer à fond, parce que c'est ce matin qu'il va faire beau. Alors, je finis. Les côtes de la Manche et les côtes atlantiques et les côtes méditerranéennes, nous aurons un temps qui va s'améliorer au fil des heures, parce que ce matin, c'est souvent couvert. Et puis partout ailleurs, on va pas faire dans le détail, notamment sur Paris, sur Roland-Garros, sur Corinne Boulou, ouais, grâce au parapluie. Et bien là, nous aurons un temps à orage, un temps agité, qui va se manifester à partir de l'après-midi. C'est pour ça que je dis qu'il faut jouer ce matin, dans l'après-midi. Alors, ce sont des averses parfois très violentes, parfois, pour certains d'entre nous, on va y échapper. Là, vous jouez au loto parce que vraiment vous aurez la chance terrible. Et si, mais de toute manière, l'ensemble des régions de France auront ce type de temps, ce temps agité, qui sera le nôtre demain pratiquement et presque jusqu'à la fin de la semaine.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol.
Europe 1, le journal de Roland Garros.
À 8h33, nous retrouvons donc Corinne Boulou pour le journal de Roland. Bonjour Corinne.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Mesdames et messieurs, Raphaël Nadal.
Je crois que jouer un bon match, pour moi c'est toujours unique, très spécial de jouer ici à la Philippe Chatrier. Merci beaucoup à tout le monde.
Premier tour sans encombre donc pour le tenant du titre, le joueur aux 13 coupes des mousquetaires. Tout juste une petite alerte dans le troisième set, vite réglé. Et Raphaël Nadal s'est offert une 101e victoire à Roland-Garros. Son prochain adversaire, Richard Gasquet.
Le chiffre du jour, 3. Accablant pour les Français.
Oui, ils ne sont que 3 en effet au deuxième tour. C'est le pire bilan tricolore à l'issue d'un premier tour alors qu'ils étaient 18 joueurs sur la ligne de départ. Et dans le tableau féminin, elles seront 4 au deuxième tour, comme l'an passé. Au total, ils seront 7 au deuxième tour sur les 28 engagés du jamais vu depuis 1981.
Et pourtant, le public ne se ménage pas pour soutenir les Bleus.
Oui, Gaël Monfils peut en témoigner. Beaucoup ne donnaient pas cher de son avenir dans le tournoi avec ce premier match contre un terrien espagnol. Seulement voilà, la magie de Roland-Garros a opéré. Il faut dire qu'avec le public, ça change tout.
C'est pour ça que je joue et c'est pour ça que je pense que j'ai bien joué et que je jouerai bien avec cette adrénaline, avec, on va dire, ces personnes qui poussent. Et ça fait que, tu vois, c'est plus facile, la vérité. Enfin, pour moi, c'est plus facile. Tu cogites moins, papa, allez, 45, allez, merci, au revoir, on est au deuxième tour. Enfin, c'est cool, quoi.
Oui, c'est cool. D'autant que pour cette deuxième victoire, depuis 15 mois, Gaël Monfils était aussi encouragé par ses parents et sa future femme, la sixième mondiale, Elina Svitolina, elle aussi au deuxième tour.
Et c'est incroyable, on l'a beaucoup dit au début de Roland-Garros, il démarre en difficulté cette année, c'est très compliqué pour Gaël Monfils. Et vous voyez, une victoire comme ça vous change.
Le ton de la voix.
Un timbre de voix, c'est incroyable. L'insolite du jour, Corinne.
Une chute malencontreuse prive Petra Kvitova, la tchèque 12e mondiale, demi-finaliste l'an passé, de son deuxième tour. Elle a été contrainte de déclarer forfait, figurez-vous, après s'être fait une grave entorse à la cheville au cours de ses obligations médiatiques d'après-match.
Bon, on ne revient pas sur le débat sur les engagements avec la presse et tout ça. Voilà, la phrase du jour. Je voulais terminer ma carrière sur un cours et non sur un lit d'hôpital.
Ouais, et Paris tenu par l'Espagnole Carla Suarez Navarro, de retour hier soir sur un cours après avoir entamé en septembre 2020 un combat contre le cancer. La joueuse de 32 ans, double quart de finaliste Porte d'Auteuil, s'est inclinée vers 22h en 3-7 pour son dernier Roland-Garros.
Et pour finir, l'homme du jour, Daniil Medvedev.
À 25 ans, le numéro 2 mondial vient enfin de remporter un match à Roland-Garros pour sa 5e participation. Assez étonnant de voir le Russe de 25 ans, finaliste du dernier Open d'Australie, sans vraiment de repère à Roland-Garros.
C'est complètement inhabituel pour un joueur de ce niveau, à ce classement, de n'avoir, jusqu'à il n'y a pas longtemps, jusqu'à ce premier tour, qui n'a pas remporté de match ici à Roland-Garros. Et j'ai envie de vous dire qu'il n'y a aucune raison pour qu'il ne joue pas bien sur terre battue. Mais il a vraiment toutes les armes, il sert bien, il est grand, donc il peut courir beaucoup de terrain. Et puis il connaît ses altitudes d'aller loin en tournoi du Grand Chelem.
L'avis de Cédric Pioline, notre consultant sur cette quinzaine. Medvedev se repose à l'américain Tommy Paul en soirée à huis clos. Nous reverrons l'ex numéro 1 mondial Serena Williams avec du public en tribune cette fois, tout comme le grec Tsitsipas. Et puis il y aura deux Françaises sur les cours, Harmony Tan et Caroline Garcia.
Merci beaucoup Corinne Boulou, c'était le journal de Roland Garros. Et tiens, je vous le rappelle, au passage, ça me paraît être le bon moment, vous pouvez gagner des places pour la finale, vous aurez le choix, finale homme ou finale dame, deux places à gagner en envoyant tennis par SMS au 739-21. 8h36, dans un instant, notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed.
Et je vous propose quelque chose d'extrêmement simple, mais qui nécessite quelques précautions, comment bien s'hydrater lorsqu'il fait chaud.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h38 sur Europe 1. Notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour docteur.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Jimmy, ce matin, vous allez nous donner quelques astuces pour tout simplement bien s'hydrater durant l'été qui approche.
Oui, car même si la météo est quelque peu capricieuse, les conseils que je vais vous donner ce matin devraient vous servir tout l'été, voire toute votre vie, rien que ça. Tout d'abord, rappelez-vous que nous avons dans le cerveau un thermostat qui nous permet d'avoir une température corporelle aux alentours de 37 degrés, quasi constant, pour assurer notre survie. Quand il fait chaud, votre température risque donc d'augmenter sous l'effet de la chaleur. Et pour éviter justement un coup de chaud, vous allez vous mettre à transpirer. Et la transpiration, elle permet tout simplement de garder votre corps à la bonne température. Or, je vous rappelle que la sueur est composée majoritairement d'eau et d'un peu de sel hein, pour ceux qui l'auraient goûté. Il va donc falloir compenser ces pertes.
Et on compense avec de l'eau tout simplement. Enfin, tiens, vu que nous sommes à Roland-Garros, il faut boire beaucoup plus quand on fait du sport, non ?
Oui, l'eau suffit largement, mais il ne faut pas attendre d'avoir soif pour boire. Une façon simple de savoir si vous êtes suffisamment hydraté est de garder tout simplement la couleur de vos urines. Alors, c'est pas très sexy, mais si elles sont très foncées, c'est qu'elles sont concentrées et qu'il va donc falloir boire plus. Je vous rappelle aussi que les boissons sucrées, comme les sodas, ne permettent pas de s'hydrater, tout comme les boissons alcoolisées qui, au contraire, vont vous faire uriner plus et donc tout simplement vous déshydrater. Quant aux sportifs, en fonction de l'intensité et du climat, ils ont besoin de 1 à 3 litres d'eau par heure. Donc pour ceux qui vont se remettre au sport, buvez un ou deux verres d'eau toutes les 20 minutes pour assurer un bon niveau d'hydratation.
Et pour ceux qui n'aiment vraiment pas l'eau, est-ce qu'il existe des alternatives ? Ça me paraît difficile dans la vie sans eau.
Mais si, il y a quand même des alternatives car on a tendance à oublier que s'hydrater passe aussi par l'alimentation. Certains aliments comme les concombres, la tomate, la pastèque ou le melon sont composés à 90% d'eau. C'est donc une bonne façon de s'hydrater, en particulier chez les enfants ou les personnes âgées qui ont parfois du mal à boire d'eux-mêmes. Enfin, pour terminer, soyez vigilants en particulier chez ces personnes âgées dont la perception de soif peut être altérée et qui dépendent d'un tiers pour s'hydrater. Il est possible de leur proposer aussi, comme alternative, une eau pétillante peu salée.
Merci Jimmy Mohamed, notre santé tous les matins et sans rendez-vous, l'émission Santé d'Europe 1, c'est à 15h avec Mélanie Gomez. Il est 8h40 et nous retrouvons Fanny Agostini, notre planète. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Une grande première dans la lutte contre le plastique dans les océans. Un outil va permettre aujourd'hui de prédire là où les déchets vont s'échouer.
Oui, l'expérimentation a lieu en ce moment même aux îles Galapagos. Cet archipel qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO se situe loin de tout dans le Pacifique, à 1000 km des côtes équatoriennes. Mais c'est là où pourtant s'échouent chaque année des tonnes de plastique à cause des courants marins qui les rabattent depuis le continent sud-américain. C'est justement ces courants marins qu'une intelligence artificielle repère pour prédire en amont l'arrivée des déchets sur le littoral des îles Galapagos. C'est ainsi qu'est élaborée une cartographie prémonitoire prémonitoire des déchets qui vont arriver sur les plages dans les semaines à venir, car cette intelligence artificielle peut désormais prévoir le déplacement des déchets puisqu'elle est entraînée à reconnaître les particules de plastique grâce à des capteurs flottants dotés de GPS.
C'est Minority Report contre la pollution plastique. Sur place, oui. À quoi est-ce qu'elle va servir ce radar à déchets ?
Alors à ce jour, seulement un petit pourcent des côtes de l'archipel sont nettoyées, avec en moyenne 8 tonnes de déchets qui sont échoués et repérés et récupérés chaque année. Des déchets plastiques qui se retrouvent inévitablement dans l'estomac de toute une faune exceptionnelle, des tortues géantes, des iguanes et des requins. Mais faute de moyens, les autorités ne peuvent pas massivement ramasser et elles misent donc sur une appréhension des échouages en amont avant qu'ils n'atteignent les côtes. Voilà pourquoi cette méthode de prévision d'échouage des déchets va permettre de déployer des moyens plus ciblés et donc plus efficaces de nettoyage sur des endroits qui sont vraiment très pollués.
L'utilisation de cette intelligence artificielle pourrait-elle nous permettre de nettoyer les océans en entier ?
Ah, ça serait bien. Elle nous permettrait certainement d'affiner notre compréhension et notre anticipation des mécanismes océaniques et de concentration du plastique. C'est un outil précieux qui permettra sûrement à l'avenir de suivre les nappes de déchets flottants, un petit peu comme on peut suivre les nappes de pétrole, puisque ces particules de plastique sont invisibles à l'œil nu. Et ainsi ciblées, nous pourrons mieux les attraper. Mais cette intelligence artificielle n'est certainement pas la clé de tout, puisqu'on le sait, la problématique des déchets est surtout une affaire de comportement à changer.
Fanny Agostini, notre planète, tous les matins sur Europe 1. Merci Fanny. 8h43. Dans un tout petit instant, Julie est déjà là. Nicolas Canteloup arrive pour la revue de presse. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h46, ils sont là. Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info. C'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, on retrouve Mathieu Béliard pour les titres de l'actu. Allez.
Oui, rebonjour ma chère Julie, bonjour, bienvenue. Bienvenue sur Europe 1. Europe 1 regarde le monde changer, enfin, changer de terrasse surtout. On est plutôt sur du regarde le monde glandé. On n'en fout pas une, on est tous en terrasse.
Il y a un monde fou, oui, c'est vrai.
Bah oui, je peux vous dire qu'on fait des vrais scores. Hein. 2h37 à rester pour un café, à glandouiller. 3h14 à rester pour à siroter un Perrier Menthe. On est des champions, je crois, de la glande. Allez, moi par contre, vous l'avez compris, je bosse. Allez, c'est parti, les titres. L'info du jour.
Allez, Mathieu.
L'info du jour, c'est Jean Castex qui est en Tunisie. Et il devrait, on le sait, être bien accueilli. Sans doute, on le présuppose. Ses costumes sont en effet tellement grands qu'ils vont prendre ça pour une djellaba ou au pire un sarouel. Bien joué, Jeannot. L'autre info. Allez, l'autre info, c'est la SNCF qui promet désormais des prix plafonnés pour les détenteurs de la carte privilège. On attend avec impatience le jour où la SNCF proposera de plafonner carrément ses retards. Hein, on aura tous une carte privilège du coup. Ouais, c'est vrai que se taper 5 heures de train en carré familial avec 3 enfants qui hurlent du wedgen et qui vous gribouillent le visage avec des coffres Velleda. Oh, tu parles de privilège, c'est du vécu, ma chère Julie, c'est du vécu. Merci la SNCF.
Ça peut pas s'inventer, ça.
Le carré avec les enfants. Allez, depuis lundi, la vaccination est ouverte pour tous et accélère encore. La presse s'est pourtant fait l'écho d'une situation contrastée dans le centre de Livry-Gargan en région parisienne, qui était vide. Bonjour Jean Castex.
Fifi. Bonjour Madame Julie. Ah Monsieur Béliard, bonjour Monsieur Chabrol. Bonjour aux papis, aux mamies qui peuvent, s'ils le veulent bien sûr, se faire vacciner une troisième fois, voire une quatrième fois, vu que les centres sont vides, totalement vides.
Alors il semblerait que les jeunes ne se précipitent pas pour se faire vacciner.
Non, mais les jeunes, vous savez, on les connaît, ce sont des rebelles, les jeunes. Dès qu'on leur dit, vous savez, mange ta soupe, range ta chambre, prends ton bassin, et ils refusent, c'est comme ça, c'est un jeune.
Ouais. Voilà. En même temps, il faut les comprendre, les courbes chutent, 1000 cas hier en France, ils sont très peu malades, les jeunes, alors pourquoi se faire vacciner ?
Alors pourquoi se faire vacciner?
Oui.
Mais parce que j'en sais rien, moi. Parce que ne réfléchissez pas, les jeunes. D'habitude, vous ne réfléchissez jamais, on le sait. Pourquoi là, vous vous posez des questions? On vous dit, vaccinez-vous. Vous vous vaccinez, voilà, bon sens de droit. Idéalement, je dis bien idéalement, il faudrait un nouveau variant qui tue en masse les jeunes. Je peux vous garantir qu'ils iraient tous se faire vacciner. Et on aurait moins de morts, du coup. Hein? Mais là, comme il y a moins de morts, ils ne veulent pas le vaccin. Et du coup, il va y avoir plus de morts. C'est comme ça.
Mais j'ai rien compris, moi.
Moi non plus. Mais je vais vous avouer une chose, même Julie, parce que je l'apprécie. Oui. C'est pas la première fois que je ne comprends rien à cette crise.
Merci Jean Castex. Marine Le Pen séduit de plus en plus de membres des Républicains. Elle multiplie les appels du pied en direction des LR pour les régionales. On va appeler le siège du Rassemblement National. Tiens, pour essayer d'y voir un peu plus clair dans cette stratégie de Marine Le Pen.
Bonjour, tu es bien au Rassemblement National. Tu es membre des Républicains et tu cherches une aventure politique et coquine dans ta région. Tu as envie de faire tout ce que tu n'as jamais osé faire, de dire tout ce que tu n'as jamais osé dire. Tu aimes la fermeté, les menottes et les uniformes. Alors, rejoins-moi, oui, rejoins-moi, et j'assouvirai tous tes fantasmes. Tu n'auras plus aucune limite.
Marine Le Pen, bonjour. Ah. Vous êtes là? Oui.
Alors, Christian... Oui, bonjour, pardon.
Christian Estrosi, ancien membre des Républicains, estime que les digues ont cédé entre LR et RN. Vous confirmez?
Oui, oui, pardon, Madame Leclerc, j'étais en ligne. Oui, bonjour à toute notre équipe. Oui. Bonjour à M. Cabrol et au docteur Sting Benzema. Et bonjour à toi, jolie métisse.
Ah, oui.
Ah, je suis sûr que face à toi, un jour, ma digue cédera. Écoutez, oui, nos commentaires. Et il est tout rouge. Oui, force est de constater que ce qu'on appelait le Front républicain n'existe plus. Ou plutôt si, maintenant c'est l'alliance du Front National et des Républicains. Oui. Humour frontiste. L'alliance Front National et Républicain, voilà. Elle est très pointue celle-là, il faut s'y connaître en politique, mais vos éditeurs ont un sens de l'humour exigeant.
Alors qu'est-ce que vous pensez de la proposition de Guillaume Pelletier, numéro 2 des Républicains, qui propose de rétablir la Cour de Sûreté, qui pourrait placer en rétention sans possibilité d'appel dans les dossiers de terrorisme?
Il a dit ça ?
Oui, il a dit ça.
Pas d'appel possible ?
Non.
Ah oui, 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 quand même. Oui, quand même. Même pour moi, ça va loin, là. Non, mais écoutez, ça veut dire qu'en 2022, il faut voter pour moi pour faire barrage aux Républicains. Ça annonce formidable l'année à venir, je vous le dis.
Alors, vous avez détaillé votre programme avec de nouvelles propositions. Visiblement, vous avez travaillé. Hein. Est-ce que vous pouvez nous les exposer, ces propositions ?
Non mais ça va s'il vous plaît, je ne suis pas là pour bosser ce matin.
Ah bon
oui, écoutez, on est à la cool, je suis avec mon joli métis.
Ah,
non, mais... écoutez, si vous voulez mon programme, vous faites comme tout le monde, vous allumez CNews. Oh, mais si vous voulez, on l'allume ensemble.
Bienvenue à l'heure des pros ce matin. Exceptionnellement, nous allons, vous le savez, parler de l'ensauvagement. L'ensauvagement, oui, de la France. On est dans une France, vous le savez, orange mécanique. Si, 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 mes chers amis, orange mécanique. Et bien sûr, pas un mot de tout cela sur France Inter, sur France 2. C'est l'angélisme, disons-le, de la gauche qui nous mène, il faut bien le dire, dans le mur. On va dans le... Si, mais si, excusez-moi, on va dans le mur. Ce matin pour en parler. Écoutez, tous mes invités sont là et je les remercie. Jordan Bardella, merci Jordan, Jean Messia, Yvan Rouviofol, Nadine Morano, mais aussi, rassurez-vous, Jean de gauche, Bruno Retailleau, car c'est important que la gauche s'exprime sur ce plateau.
Oh, j'adore, je ne suis pas tout le temps. Il est bon, mon Pascal Lou. Hein. Il faudrait que je le casse à la culture. Mais quoi, je ne vais pas me contenter de lui offrir juste une boîte de chocolat, excusez-moi.
Merci Marine Le Pen. À bientôt. Stéphane Bern a publié une tribune contre les éoliennes qui, selon lui, défigurent les paysages et ne produisent pas assez d'énergie. Et en fait, elles sont faites dans des matériaux non recyclables. Bonjour Stéphane.
Oui, moi c'est Stéphane. Oui, je souris, mais non. Je suis colère. Je ne suis que mécontentement ce matin. On nous colle des éoliennes dans tous nos beaux paysages de France, alors que ça ne sert à rien. Une éolienne. Mais écoutez, c'est quoi, ma Julie ? Une éolienne, ça brasse de l'air, ça coûte une fortune et ça produit rien. Pardon, mais pour ça, on a déjà l'Assemblée nationale. Alors.
Oh là là,
petit tacle.
Pour vous, ça défigure les paysages et donc les touristes ne viendront plus, c'est ça ?
Mais oui, mais ça impacte toute une filière, allons. Tenez, hier, j'étais avec le conservateur du musée du haricot vert à Glaoui-sur-Tompif. Eh bien, oui, il expose des haricots verts d'hier et d'aujourd'hui. C'est magnifique, mais vous devriez y aller plutôt que de sourire bêtement. Il y a une collection de près de 3000 haricots verts différents. Enfin, quand même, dans des anciennes fermes reconverties. Eh bien, bon, bref, j'en parle avec Annie Agostini. Eh bien, les pouvoirs publics lui ont imposé deux éoliennes à 200 mètres de chez lui. Résultat, plus personne ne vient. Bah, alors déjà que personne ne venait visiter le musée du haricot vert avant, vous croyez que ça va lui simplifier la vie à son musée du haricot vert, à notre
ah là là, écoutez, conservateur. Bravo pour votre combat, en tout cas Stéphane, et à bientôt. Football maintenant, football. En cas de victoire finale à l'Euro, les Bleus peuvent viser une prime de 340 000 euros. On va en parler tout de suite avec Kylian Mbappé. Bonjour Kylian.
Oui, pardon. Dites-moi. Oui, pardon, j'ai pas entendu le début de la question.
Bah, attendez, c'est une belle somme. Allez-y.
J'ai juste entendu 340 000 euros, effectivement. C'est...
Ben oui.
Oui, c'est une belle somme. Ah, oui. Ouais. Oui, je suis d'accord, je les prends. C'est pour la participation, à quelle soirée? En général, j'arrive à 20h, je vous précise quand même, mon emploi du temps, j'arrive à 20h, je fais coucou, la photo avec le pouce dressé, voilà. Je fais un petit selfie, je repars en fin de soirée vers 20h30 avec le chèque du sponsor.
Non, mais c'est pas du tout pour une soirée, ça. C'est votre prime par joueur à l'euro. En cas de victoire finale, bien sûr, Kylian.
Oh merde, mais l'euro, ça dure un mois. Donc c'est 340 000 euros par mois. Oh, ah oui, pardon, mais moi, oui. Oui, même pas. Ça fait même pas 4. Attends, 7 x 8, 3 jours, 2, 3. Ça fait même pas 80 000 euros par semaine. Ah oui, là, c'est dur, les temps sont durs. Là, oui, par rapport à ce que je touche en club, on est quasiment là sur du bénévolat. Hein.
Alors, j'ai lu dans Le Parisien que les joueurs recevaient une prime marketing liée au droit à l'image. À chaque fois que vous enfilez le maillot, vous recevez une prime marketing pour le droit à l'image d'environ 20 000 euros par joueur et par match.
Oui, bon, ça c'est la prime Mme Julie, la prime maillot par joueur.
Oui, c'est ça.
La différence que je vous rappelle que je ne suis pas un joueur. Je suis le plus grand joueur. Ah. Je suis une star internationale, donc je suis sur d'autres tarifs. Puis j'ai pas que la prime maillot, j'ai la prime short aussi quand j'enfile un short. La prime chaussette, qui est multipliée par deux, puisqu'il y a deux chaussettes. Et puis il y a la prime shoes aussi, les chaussures, deux primes.
Oui.
Et puis la prime slip, là, il n'y a qu'un slip.
Oh, bah, vous allez vous
quand je mets le slip de rechange, il y a aussi une deuxième prime.
Ça promet la compta. Hein. Oui. Merci Julie, merci Nicolas Canteloup. La revue de presse à retrouver sur europe1.fr à 8h57. Saluons Philippe Vandel qui s'installe en studio pour 2 heures. Culture Média va démarrer. Bonjour Philippe.
Exactement. Bonjour Mathieu. Dans un instant, notre info média du jour va s'intéresser à une nouvelle revue qui a pour vocation d'étudier l'histoire contemporaine. Son titre, Guerre moderne. C'est la première revue qui s'intéresse en tant que telle à ce sujet. Nous serons avec Michel Sidbon, cofondateur de ce magazine, de cette revue. Au sommaire également, un autre magazine, Les Enroc. Ils ont fêté leurs 25 ans l'été dernier, mais c'était les 25 ans de l'hebdo. Or, il y a un énorme changement. Là sort le numéro 01, ils reviennent au mensuel. Pourquoi? Comment? Nous réponse avec Jean-Marc Lalanne. C'est le directeur de la rédaction et la rédactrice en chef adjointe Carole Boinet. Je ne vous ai pas dit, il y a le prix qui a changé et c'est assez surprenant. Il faut vraiment une prime chaussette pour l'acheter. Et puis enfin, la chanteuse Holly Seas, alias Cécile Cassel, elle est de retour avec un nouveau single produit de manière totalement indépendante et on vous le fera entendre.
Culture Média de 9h à 11h, c'est sur Europe 1 avec Philippe Vandel et toute son équipe. Je vous souhaite une très belle journée, ensoleillée, vous l'aurez compris, avant les orages. Très belle journée à toutes et à tous. On se retrouve demain matin en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.